Après le credo, les grands conciles. Une émission proposée par Mgr Jean-Pierre Battu.
La préparation est la première phase du concile d'Éphèse. Nous avons vu la dernière fois comment Cyrille attendait son heure pour agir contre Nestorius et comment cette heure était venue avec le chèque en blanc que lui avait donné le pape Célestin pour exécuter la sentence du synode romain du 11 août 430 qui exigeait de Nestorius qu'il se rétracte. Mais remontons un peu en arrière. Cyrille n'avait pas attendu ce blanc-seing du pape pour agir. Dès janvier de la même année, il avait écrit à Nestorius pour lui exposer ce qu'il estimait être la vraie doctrine catholique sur l'incarnation et sur la Vierge Théotokos. Cette lettre est un document théologique majeur, puisque le concile d'Éphèse lui donnera la valeur d'une définition dogmatique. En voici le passage central. En disant que le Verbe de Dieu s'est incarné et s'est fait homme, nous ne disons pas que la nature du Verbe s'est transformée pour devenir chair, ni non plus qu'elle s'est transformée en un homme complet, constitué d'une âme et d'un corps, mais nous affirmons plutôt ceci, que le Verbe, en s'unissant selon l'hypostase à une chair animée par une âme raisonnable, est devenu homme d'une façon indicible et incompréhensible, et qu'il a été appelé Fils de l'homme. Et bien que les deux natures, unies par une unité véritable, soient différentes, des deux résulte un seul Christ et un seul Fils. La différence des natures, divine et humaine, n'est pas supprimée par l'union, mais au contraire, la divinité et l'humanité forment pour nous un seul Seigneur et Fils par leur rencontre inexprimable et mystérieuse en l'unité. Ensuite, deuxième partie de la lettre, Cyrille rappelle les conséquences de cette union, selon l'hypostase, pour la Vierge Marie. Je cite de nouveau. « Aussi, bien qu'il subsiste avant les siècles et qu'il ait été engendré par le Père, on dit aussi qu'il a été engendré selon la chair par une femme. Cela ne veut pas dire que sa nature divine aurait commencé à exister dans la Sainte Vierge. » Mais puisque c'est pour nous et notre salut qu'il s'est uni selon l'hypostase l'humanité et qu'il est né de la femme, on dit qu'il a été engendré d'elle selon la chair. Car ce n'est pas un homme ordinaire qui aurait été d'abord engendré de la Sainte Vierge et sur lequel ensuite serait venu se reposer le Verbe, mais c'est le Verbe qui s'est uni à l'humanité dès le sein de Marie. Ainsi les saints pères n'hésitèrent pas à appeler la Sainte Vierge, Mère de Dieu, Théotokos. Nestorius, après avoir reçu cette lettre, laisse passer quelques mois, puis il répond en réaffirmant l'essentiel de sa doctrine. Dans le Christ, les deux natures, humaine et divine, sont conjointes en un seul sujet, mais tout se passe comme si l'humanité avait d'abord existé séparément de la divinité. Et si l'on dit que le Verbe est le sujet de ce que fait et subit l'homme Jésus, eh bien on retombe dans l'hérésie d'Apollinaire, qui pensait que la nature divine elle-même était sujette au changement, à la souffrance et à la mort. En conséquence, il ne faut pas appeler Marie Théotokos, mère de Dieu, mais seulement Christotokos, mère du Christ. Cyrille répond à son tour en envoyant un peu partout des petits traités sur l'incarnation, et en rassemblant un dossier de textes divers et de sermons de Nestorius. Il rédige 5 livres qu'il intitule « Contre les blasphèmes de Nestorius » et il envoie le tout au pape. C'est l'origine du synode romain du mois d'août 430 dont nous avons déjà parlé, qui enjoint à Nestorius de se rétracter dans les 10 jours et qui charge Cyrille d'exécuter la sentence. Voici le texte du pape Célestin, adressé à Nestorius. Sache clairement que si tu ne prêches pas au sujet du Christ ce que tiennent les églises de Rome et d'Alexandrie et toute l'église catholique, comme l'a fait avant toi la sacro-sainte église de Constantinople, et si dans les 10 jours après que tu auras eu connaissance de notre assemblée, tu ne condamnes pas ouvertement et par écrit la perfide nouveauté qui tente de séparer ce qu'unit la divine Écriture, sache que tu es rejeté de la communion de toute l'Église catholique. Mais, après avoir reçu cette mise en demeure, Nestorius choisit de faire le mort. Cyrille patiente jusqu'en novembre de la même année 430, puis il lui écrit de nouveau pour lui rappeler la décision romaine. Mais il ne s'en tient pas là. Il ajoute à sa lettre 12 condamnations ou anathématismes auxquels il demande à Nestorius de souscrire. Et ce faisant, il va plus loin que la demande du pape, qui exigeait seulement de Nestorius qu'il se rétracte. Par ses adjonctions, Cyrille semble vouloir imposer à son adversaire d'adhérer non seulement à la foi de l'Église universelle, mais à une théologie particulière, la sienne, Cyrille, celle d'Alexandrie, avec la fameuse formule de l'union selon l'hypostase. Or, si la foi est une, il est légitime que les théologies soient diverses, à la seule condition qu'elles reflètent chacune à sa manière l'unité de la foi. Le mystère de Dieu ne peut pas être enchâssé dans une formule, si exacte qu'elle prétend être. Évidemment, Nestorius se rebelle contre la prétention de Cyrille à le faire adhérer à sa vision théologique. Il contre-attaque, aussitôt, en accusant Cyrille de tomber dans l'hérésie d'Apollinaire. On est donc dans une impasse. L'empereur Théodose II prend acte de ce blocage, et comme il s'inscrit spontanément dans la tradition interventionniste inaugurée par Constantin et poursuivie par son grand-père Théodose le Grand, eh bien, il décide de convoquer à son tour un nouveau concile qui fera suite à ceux de Nicée et de Constantinople au siècle précédent. Théodose avertit Cyrille de sa décision le 19 novembre 430 et il convoque les évêques à Éphèse pour la Pentecôte 431 qui tombe cette année-là le 7 juin. Pourquoi ce choix d'Éphèse ? L'empereur lui-même explique aux évêques que la ville est d'accès facile par terre et par mer. En effet, Éphèse était à cette époque un grand port. Aujourd'hui, le site d'Éphèse se trouve à 7 km de la mer. Il s'y ajoute un autre élément. Éphèse était sans doute le lieu dans l'Empire d'Orient où Marie était le plus honorée sous le titre de Mère de Dieu. On y vénérait la tombe de Saint Jean l'Évangéliste et une tradition considère encore aujourd'hui que la Vierge Marie y a vécu avec Saint Jean jusqu'à la fin de sa vie terrestre. Comme pour les conciles de Nicée et de Constantinople, le pape est invité à prendre part à l'assemblée. Comme pour les conciles précédents, il va s'en tenir à envoyer 3 légats pour le représenter et pour faire exécuter les décisions qu'il a prises, mais sous l'autorité de Cyrille. Quant à saint Augustin, lui aussi invité, il était mort dans sa ville d'Hippone assiégée par les Vandales le 28 août 430. Le résultat de tout cela, c'est que les églises d'Occident seront très peu présentes aux événements d'Éphèse, et que Cyrille, en particulier, aura toute latitude pour faire ce qu'il a décidé, malgré une lettre du pape l'appelant à la modération. On voit que le pape Célestin commençait à bien connaître Cyrille. Théodose, de son côté, envoie à Éphèse sa police impériale pour assurer le maintien de l'ordre devant des laïcs et des moines passablement excités. Il y avait en effet de quoi se méfier. Cyrille s'était embarqué d'Alexandrie avec 40 évêques égyptiens, c'est-à-dire beaucoup plus que prévu, car seuls étaient invités les principaux évêques appelés métropolites. En outre, de nombreux moines étaient du voyage. Quand Cyrille arrive à Éphèse, il constate qu'environ 150 évêques sont présents, mais qu'il y a des retardataires, en particulier les légats du pape. On les attend, mais il fait chaud. Certains évêques tombent malades, certains même meurent. Et les deux parties s'échauffent eux aussi. Si bien que Cyrille, d'un coup de tête, pourrait-on dire, décide brusquement d'ouvrir le concile le 21 juin. Ce faisant, Cyrille est sûr de s'assurer une confortable majorité, car non seulement les légats romains ne sont pas arrivés, mais surtout les évêques de l'école d'Antioche avec leur patriarche Jean, tous plutôt favorables à Nestorius, sont encore en route eux aussi. Évidemment, cette initiative suscite de la résistance. 68 évêques adressent à Cyrille une protestation très ferme, tandis que le chargé de pouvoir de l'empereur demande qu'on attende l'arrivée des retardataires. Mais Cyril passe outre, il met le représentant de l'empereur à la porte et il ouvre le concile le 21 juin comme il l'a décidé. Et Nestorius ? Eh bien, devant ce coup de force, il avait décidé de ne pas se rendre à la convocation. Et comme les absents ont toujours tort, il fait figure d'accusé et bientôt de coupable. On lui intime l'ordre de venir de gré ou de force. Il répond qu'il ne viendra que quand tous les évêques seront réunis. On prend acte de ce refus de comparaître et on engage les débats. On commence par relire le credo de Nicée pour bien souligner qu'on n'entend pas y ajouter quoi que ce soit. Puis on fait lecture de la fameuse lettre de Cyril à Nestorius dont nous avons parlé en commençant. Une fois cette lecture faite, Cyril demande à l'Assemblée de dire si elle estime qu'elle est orthodoxe et conforme à la foi de Nicée. Et bien entendu, tous les évêques présents sont d'accord, la lettre de Cyril est solennellement approuvée comme conforme à la vraie foi. Ensuite, on procède de même avec la réponse de Nestorius à Cyril. Et là, sans surprise, tout le monde se récrie. Nestorius est un blasphémateur, Nestorius est un impie, Nestorius est un hérétique. Il y a un troisième acte de cette assemblée, car il reste la dernière lettre de Cyril à Nestorius, celle à laquelle il avait joint les fameux anathématismes. On en donne également lecture et on l'insère aux actes du concile avec la lettre du pape Célestin, mais sans qu'elle fasse l'objet d'un vote. Enfin, le concile prononce la condamnation de Nestorius. Je cite « Notre Seigneur Jésus-Christ, que Nestorius a blasphémé, décrète par le Saint-Synode ici présent que Nestorius est exclu de la dignité épiscopale et de toute assemblée sacerdotale. » Et pour couronner le tout, on porte la sentence à la connaissance de Nestorius par une lettre qui le traite de nouveau Judas. On comprend ce qu'écrira plus tard Nestorius, je cite « Cyril constituait tout le tribunal, car tout ce qu'il disait, tous le disaient en même temps. Et sans aucun doute, sa personne tenait lieu de tribunal. Il a réuni ceux qui lui plaisaient, et il s'est constitué en tribunal. J'ai été convoqué par Cyril qui a réuni le concile, par Cyril qui en était le chef. Qui était le juge ? Cyril. Qui était l'accusateur ? Cyril. Qui était l'évêque de Rome ? Cyril. Cyril était tout. » L'affaire était donc entendue, et l'Assemblée pouvait en principe se séparer au terme d'une séance qui n'avait duré qu'une seule journée. Mais les légats du pape n'étaient toujours pas arrivés, et les évêques antiochiens, qui ne l'entendaient pas de cette oreille, préparaient leur riposte, comme nous le verrons la prochaine fois.